Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Audrey Guélil.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Aujourd'hui encore, le vin coule à flot et il nous faudra simplement tendre l'oreille pour en percevoir l'écho. Troisième épisode de notre série intitulée In Eco Veritas. Le vin est une marchandise mondialisée, mais la production de raisins est un art soumis aux aléas climatiques. Des contraintes qui expliquent en partie le recours massif à une main-d'œuvre saisonnière et qui servent souvent à excuser les nombreuses entorses au droit. Le recrutement des vendangeurs flirte avec la légalité et les conditions de travail des ouvriers de la vigne sont régulièrement épinglés. Infiltrons-nous dans les vignes à l'heure où les vendanges battent leur plein. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler des ouvriers de la vigne en compagnie d'Ixchel Delaporte, journaliste, auteur des Raisins de la misère, une enquête sur la face cachée des châteaux bordelais publiée l'an dernier aux éditions du Rouergue. En compagnie également de Catherine Laurent, économiste, directrice de recherche à l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'INRA, et co-auteur de l'ouvrage collectif Actif Agri, transformation des emplois et des activités en agriculture, paru à la Documentation française en juin dernier. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho, présenté par Xavier Martinet.
Lundi ?
Lundi dans 8 jours ?
Ouais, lundi dans 8 jours. Jean, rigole pas ! C'est pas drôle.
Dans 8 jours ?
Oui !
Goûte côté soleil. Pour moi, c'est jeudi, ça.
Jeudi ? Dans 4 jours ?
Dans 4 jours, hein. Si tu commences dans 8 jours, tu risques d'arriver en retard pour les rouges. Et en plus, tu feras de la confiture en fin de vendange. Écoute bien, là, déjà, non ? Tu sens ?
Ah, mais là, les peaux, elles sont super épaisses.
Et ?
Bah, si c'était bon, elles seraient plus fines, non ? Le jus, il viendrait plus facilement. Regarde, les pépins, ils sont à peine bruns. Franchement, moi, j'attendrai à 4 jours près, on aura plus de chair.
Bah oui, parce que toi, en fait, tu veux faire du vin plus facile, non ? Comme celui de papa. Tu préfères pas un vin plus tendu, avec de l'acidité ?
Ouais.
Ben alors ?
Vous voulez pas attendre l'analyse du labo ? Parce que franchement, on a les résultats à 15h, au moins on saura un peu de quoi on parle, non ?
Regoute.
Ok. Vous devriez goûter le haut. Il y a une grosse différence là-haut.
4 jours, c'est trop court, Jean.
Ah non, c'est pas court. Hein.
Catherine Laurent et Ixchel Delaporte, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre un extrait du film de Cédric Clapiche, Ce qui nous lie, sorti en 2017. Un film qui raconte le retour de Jean, incarné par Pio Marmaille, dans sa Bourgogne natale. Son père, propriétaire d'un domaine viticole, meurt juste avant les vendanges. Qu'est-ce que cet extrait nous apprend des difficultés des viticulteurs, Ixchel Delaporte, lorsqu'approche la récolte, difficultés qui se répercutent ensuite sur les travailleurs des vignes?
Ouais, c'est une très grosse pression, je pense, de la part de tous les vignerons pour faire un bon vin. Je pense que c'est quelque chose qui est partagé par tous les vignerons, quels qu'ils soient, ou en tout cas par ceux qui se préoccupent effectivement d'avoir un produit fini qui soit bon et beau. Mais à vrai dire, c'est difficile pour moi de parler du côté des vignerons parce que c'est pas l'essentiel de mon travail, et l'essentiel de mon travail porte plutôt justement sur l'autre partie, l'autre face qui concerne plutôt ceux qui ramassent le raisin.
Mmh, mais ce qui permet de comprendre aussi du côté des vignerons les difficultés du recrutement, c'est que le début de l'activité, comme on l'a entendu dans cet extrait, sa durée et puis aussi son intensité sont particulièrement difficiles à anticiper, Catherine Laurent, notamment à cause des facteurs climatiques. Selon qu'il y a un pic de chaleur, selon qu'il y a de la pluie ou de la grêle qui entraîne une diminution de la quantité de raisins à récolter.
Oui, alors c'est vrai que la difficulté de déterminer le début de la vendange est compliquée en termes de gestion du personnel. Alors, cela étant, le recours à des saisonniers, ce n'est pas que la vendange, c'est aussi toute l'année, la taille, les pamprages, enfin, il y a tout un tas d'activités dans la vigne pour lesquelles on embauche des saisonniers, éventuellement de façon successive pendant 8 mois, qui, elles, ne sont pas aussi, dépendantes du taux de sucre dans le raisin. Donc là, c'est quelque chose de très particulier. Enfin, je dirais, c'est vraiment peut-être le point le plus sensible, mais on peut pas résumer toute l'embauche des personnes à ça.
Ce qu'on peut dire tout de même, Michel Delaporte, c'est que l'activité agricole, et en l'occurrence viticole, nécessite une très forte disponibilité et une grande flexibilité de la part des travailleurs.
Absolument. C'est tout le problème de ces métiers-là, c'est que justement, ils ont besoin peut-être presque d'une heure à l'autre d'un certain nombre de travailleurs de la vigne, et que parfois, c'est extrêmement difficile de trouver ces personnes-là pour venir travailler peut-être 2 ou 3 heures simplement, parce que l'après-midi il va pleuvoir et qu'on ne sait pas quel temps il fera le lendemain. Et donc ça veut dire, de l'autre côté de la chaîne, du côté des travailleurs, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient très disponibles, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient là aussi physiquement, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir un véhicule pour se conduire jusque sur la parcelle, ça veut dire que peut-être ils ne seront payés que 1 ou 2 jours. Donc c'est quand même assez difficile de voir venir la vie quand on ne sait pas combien on va être payé.
Alors il y a 2 dimensions qu'il faut peut-être rajouter à cela. Le fait que la machine s'occupe désormais des 3/4 des vignes du pays, je crois au moment des vendanges. Donc peut-être que cette demande de travailleurs a diminué ou s'est concentrée dans certaines régions, Michel Delaporte. Et aussi le fait qu'avec le réchauffement climatique, la date des vendanges s'est beaucoup déplacée au cours des 40 dernières années.
Oui, il y a la question de la mécanisation, mais quand même il faut des tracteurs. Il faut quand même des hommes, quoi qu'il arrive, il faut des hommes pour passer les intrants chimiques, il faut des hommes pour conduire les machines, il faut des hommes pour ramasser le raisin. Enfin, je veux dire, il y a quand même, à un moment donné, la présence des travailleurs saisonniers, elle est indispensable. La mécanisation n'est pas suffisante. Par ailleurs, au niveau de tout ce qui est biodynamie, on peut dire que on revient à des techniques de ramassage à la main. Et ces techniques de ramassage à la main, elles ne sont pas forcément très faciles, parce que ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup de travailleurs saisonniers à un instant T, et que donc on saucissonne le temps de travail. Ça veut dire que une personne va gagner moins d'argent parce qu'il en faut beaucoup des personnes d'un seul coup.
Et il y a aussi, c'est aussi un outil marketing de montrer que on ramasse le raisin à la main. Certains raisins aussi, comme le Pinot Noir de Bourgogne, sont trop fragiles pour sortir indemne d'un ramassage à la machine. Et puis il y a aussi des appellations comme le champagne qui interdit la récolte à la machine. Donc toute une série de contraintes qui compliquent le recrutement aussi de travailleurs. Catherine Laurent, aujourd'hui, comment s'organisent les recrutements dans l'économie viticole? Comment on recrute une main-d'œuvre nombreuse dans des délais qui sont extrêmement courts?
D'abord, ça va dépendre du type d'exploitation, parce qu'il y a exploitation viticole et exploitation viticole entre des pluriactifs qui ont des petites parcelles, dont le Languedoc, les maisons de champagne et les châteaux du Bordelais, les exploitations moyennes à grandes du Beaujolais ou de Bourgogne. Enfin, ce sont des mondes totalement différents. Donc les traditions aussi de recrutement et les changements d'habitude ces dernières années diffèrent selon ces systèmes.
Mais est-ce que tous ne s'accordent pas pour dire qu'il est de plus en plus difficile de recruter ?
Tous s'accordent à dire que le recrutement de la main-d'œuvre fait partie des compétences du viticulteur. Après, certains ont des difficultés et d'autres moins.
Alors justement, on va essayer de voir ce qu'en dit par exemple Élise Batelier, qui est responsable des ressources humaines d'un domaine à Nuits-Saint-Georges en Bourgogne. On l'écoute.
Depuis 2-3 années, les candidatures se font de plus en plus rares. Et c'est vrai que nous sommes obligés de diffuser un maximum nos annonces pour être vraiment visibles. Il faut, je pense, attirer les candidats. Au domaine Fevelay, nous vendangeons entre 10 à 15 jours. Donc forcément, le salaire est vraiment attractif. Voilà, le paiement d'heures supplémentaires fait que le salaire reste très intéressant. Nous mettons aussi en place des primes d'assiduité pour les vendangeurs, des primes paniers, voilà. Des petits cadeaux qui changent un petit peu chaque année, et nous offrons aussi du vin pour que les vendangeurs puissent après goûter les vins du domaine Fabel.
Ce qu'on entend ici avec Chel Delaporte, c'est que les viticulteurs ont de plus en plus de mal à trouver et surtout à fidéliser cette main-d'œuvre.
Mais oui, forcément, c'est extrêmement difficile. On ne peut pas demander à des gens de se fidéliser à 2 semaines. C'est quand même un peu particulier. Alors moi, pour ce qui concerne la région du Bordelais, effectivement, la plupart des châteaux se plaignent de ne pas pouvoir trouver de la main-d'œuvre. Et c'est justement de ce problème-là, de difficulté de recrutement, que sont nés les prestataires de services. Parce que justement, ce sous-traitant va trouver la solution à ce problème. C'est-à-dire que par le sous-traitant, il n'y a plus aucun problème de recrutement. Le sous-traitant, il va aller chercher les gens qui sont les plus en difficulté, donc les gens qui, a priori, n'ont besoin de rien que du maigre salaire qu'ils vont toucher.
Et quel problème ça pose, ça, justement, effectivement, cette place croissante des prestataires de services dans le recrutement et dans la viticulture ?
Ça tire automatiquement vers le bas toutes les conditions de travail. C'est-à-dire que c'est des personnes qui s'exposent à peut-être ne pas se voir payer leurs heures supplémentaires. C'est des personnes, dans l'enquête que j'ai faite, j'appelle ces travailleurs-là, c'est ceux qui sont au bout de la chaîne. C'est des travailleurs étrangers qui viennent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de venir. C'est une immigration de nécessité pour vivre, pour survivre. Ils viennent d'ailleurs souvent avec leur famille. Donc évidemment, les prestataires, là, ils s'engouffrent dans un boulevard parce qu'il y a un besoin de main-d'œuvre. Et tout le monde le sait parfaitement bien, dans le Bordelais, s'il n'y avait pas cette main-d'œuvre étrangère, le vin ne pourrait pas exister. Le vin du Bordelais ne pourrait pas sortir.
Alors, main-d'œuvre étrangère qui peut être détachée ou non, en tout cas cette problématique des travailleurs détachés, elle est essentielle dans l'univers du vin. Catherine Laurent, quels sont les avantages pour les employeurs d'une part et pour les travailleurs de l'autre qui expliquent qu'on a aujourd'hui autant de travailleurs détachés dans ce monde-là ?
Alors, d'abord, je ne suis pas sûre qu'on ait autant que ça de travailleurs détachés. Il y a les contrats vendanges qui représentent une grosse part des travailleurs non permanents dans la viticulture, mais il y a aussi des centaines de milliers de travailleurs saisonniers, parce qu'ils enchaînent des contrats courts au fil de l'année, qui interviennent dans les vignes. Les travailleurs détachés, ce sont donc des personnes qui sont employées par des prestataires de services localisés en dehors de la France et qui amènent en France des personnes pour vendre un service. Donc c'est très difficile de savoir exactement dans quel type d'exploitation ils interviennent.
Mais pour les employeurs, c'est très avantageux parce que c'est certes le salaire minimum du pays d'accueil qui est imposé, mais en contrepartie, les charges sociales relèvent du pays d'origine du travailleur.
Alors pour les employeurs, si on regarde vraiment la réglementation, c'est pas si avantageux que ça si la réglementation est totalement suivie. Parce qu'en réalité, ils ont à payer un niveau horaire qui est supérieur au SMIC, alors que les saisonniers sont payés au SMIC. Simplement, ça leur permet de se débarrasser de la relation aux travailleurs et de ne pas avoir à gérer des personnes, à gérer de la main-d'œuvre. Et puis, ça leur permet aussi d'arriver à cette espèce d'idéal souvent dénoncé, notamment par un de nos collègues, Maurice, qui est d'arriver à séparer le travail du travailleur. On a juste besoin de tant d'heures de travail à tel endroit et on n'a plus besoin et on se préoccupe plus du tout de qui fait ce travail.
Mais la conséquence, c'est qu'on relève de nombreuses entorses au droit du travail dans ce système. Je vous propose d'écouter Dominique Clavier, il est maire de Pujol-sur-Siron dans le département de la Gironde.
C'est un problème récurrent. Ce que l'on constate, c'est effectivement des installations dans des lieux complètement inappropriés, bord des rivières, au milieu des prés, au milieu des bois, dans des conditions d'hygiène et qui pose des problèmes de santé publique. On ne peut pas rester dans ce schéma-là. Donc je crois qu'il faut que tous les acteurs se mettent autour d'une table et voir les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour qu'on ait un accueil, j'allais dire, décent.
Les recruteurs profitent de la méconnaissance des travailleurs, qu'ils soient étrangers ou non d'ailleurs, pour leur imposer des conditions de travail et d'hébergement qui sont parfois indignes, Ixchel Delaporte.
Oui, ce maire est absolument extraordinaire. Il se trouve que j'ai croisé sa route tout au long de mon enquête, puisque Pujol-sur-Siron fait partie du couloir de la pauvreté, qui est donc le couloir où se trouvent ces grands crus sur lesquels j'ai enquêté. Et ce maire a tout fait en fait pour exproprier une famille de tziganes qui sont travailleurs de la vigne et qui avaient un terrain à Pujol-sur-Siron qui leur appartenait. Il se trouve que pour des questions de plan local d'urbanisme, il a décrété que il n'était pas possible de mettre des caravanes sur ce terrain. Donc quand j'y suis allée à ce moment-là, toute la famille travaillait pour des châteaux environnants, donc y compris le très fameux château d'Yquem, qui appartient à Bernard Arnault, ou château Climens, qui appartient à d'autres grandes familles aussi du coin, aux Lurton notamment. Et ce maire n'a strictement aucun problème à tenir ce discours qui est tout à fait louable, mais dans les faits, il se trouve que ce monsieur a tout fait pour mettre dehors une famille qui sont en l'occurrence des travailleurs saisonniers de la vigne depuis des générations.
Et ce qui est important à souligner, c'est cette question de l'hébergement qui est absolument centrale, Catherine Laurent, et aussi toutes les entorses au droit du travail que l'on peut relever dans le cadre du travail détaché.
Alors, le travail détaché, mais pas que, enfin, je dirais tout le travail saisonnier. Alors là, par exemple, pour préparer cette émission, hier, j'ai regardé les annonces qui étaient données là pour les vendanges. Donc, on a peut-être, par exemple, une petite annonce par Pôle emploi dans le sud de la France, dans un endroit où il fait assez chaud en ce moment, 29 degrés à l'ombre, où on recherche des vendangeurs expérimentés. Il faut qu'ils soient là à 7 heures du matin, et puis après, ils sont acheminés. Mais les horaires de travail seront qu'à partir de 8 heures, c'est-à-dire qu'ils vont pas être payés pour ce temps-là, alors que normalement ils doivent être payés. Vous apporterez vos repas, vos bouteilles d'eau, pas d'hébergement possible sur place. Donc ça, c'est Pôle emploi, mais normalement l'eau, elle est fournie. Donc on est en dehors du droit, et plus encore, on est en dehors de la plus stricte humanité. Enfin, demander à des gens qui viennent travailler en plein soleil et par 29 degrés à l'ombre d'apporter leur eau, c'est quelque chose d'extrêmement violent dans le monde rural français.
Et il y a des abus qui vont même encore plus loin. On l'a vu dans l'actualité, la semaine dernière, un réseau qui exploitait une centaine de travailleurs saisonniers bulgares dans le Beaujolais et le Mâconnais a été démantelé. 4 hommes ont été mis en examen pour travail illégal et trafic de personnes. Ce sont des histoires qui sont malheureusement assez courantes, Michel Delaporte.
Je le pense, oui. Je n'ai pas de preuve de ça, mais je pense qu'effectivement c'est assez courant. Je me suis retrouvée moi-même à travailler sur après la parution de ce livre sur un groupe de Marocains, un groupe de Tunisiens pardon, qui avait été embauché via l'Office français de l'immigration pour travailler dans des parcelles dans le Cognac, avec un prestataire de service. Et cet homme a les pratiques proches de ce que vous décrivez là, c'est-à-dire de ce qu'on appelle de la traite humaine, avec un traitement extrêmement dur, impossibilité d'aller voir le médecin, il leur loue des voitures pour pouvoir se déplacer parce que c'est dans un petit village, donc il faut se nourrir. Il leur loue aussi, il leur défalque de leur salaire les caravanes dans lesquelles ils sont. Donc au final, ils se retrouvent, ces hommes-là, ils se sont retrouvés avec des salaires de 200, 150 euros, alors que l'Office de l'immigration leur avait proposé un salaire au SMIC. Donc voilà.
Et alors comment comprendre ces abus ? Est-ce qu'il s'agit d'un manque de contrôle, d'un manque d'intérêt des autorités pour ces travailleurs saisonniers ?
Dans le cas du Cognac, non. Je crois pas, je pense qu'ils ont été surpris parce qu'il y a peu de prestataires de services, que c'est quelque chose qui se développe petit à petit dans le Cognac et que donc ils ont été un peu surpris de voir que des personnes ont pu porter plainte auprès de la gendarmerie pour ces mauvais traitements. Par contre, je sais que dans le Bordelais, c'est des pratiques qui sont assez utilisées, mais personne ne porte plainte. Et c'est là où c'est compliqué. C'est la question du porter plainte. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le salarié ou le saisonnier qui aille porter plainte. Mais pour ça, il faut avoir la possibilité de le faire. D'abord, il faut savoir qu'on peut le faire. Et ensuite, il faut avoir le courage de le faire.
Travail.
Absolument. Mmh. Ça veut dire qu'après, on porte une étiquette sur le dos et c'est impossible de continuer à travailler dans le Bordelais, dans tout le Bordelais.
Aujourd'hui, certains viticulteurs refusent désormais d'engager des travailleurs détachés. C'est le cas de Nicolas Brunet. Il est vigneron en Indre-et-Loire.
Dans le système des travailleurs détachés, il y a un ponctionnement par celui qui organise les contrats, un ponctionnement pour celui qui organise les repas, pour celui qui organise le logement, qui n'est pas forcément toujours de bonne qualité. Et puis après, on leur prélève une part de leur paye aussi pour financer des caisses de sécurité sociale et de chômage en Bulgarie ou en Roumanie, mais qui en général sont rarement alimentées. Donc voilà, moi, c'est une forme d'esclavage moderne qui me choque. Je ne veux pas participer à cela. Donc je souhaite que mes ouvriers soient sous législation française et que les choses soient claires pour eux comme pour moi.
Une forme d'esclavage moderne, vous êtes d'accord avec cela, Catherine Laurent ?
Ben, il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord. Il y a des définitions par l'Organisation internationale du travail, notamment sur le travail forcé. Et on sait que le travail forcé se développe en Europe, en agriculture.
Sur le travail détaché, en l'occurrence. Pour lui, c'est le travail détaché qui est une forme d'esclavage moderne.
C'est pas, oui, enfin, ça peut, enfin, je veux dire, le travail forcé, c'est quand on prend les passeports des gens, quand on les paye pas, quand on les oblige à faire des tâches qu'ils ne veulent pas faire, des horaires qu'ils ne veulent pas faire, qu'ils ne sont pas rémunérés ensuite. Donc, ce sont des définitions tout à fait légales.
En tout cas, c'est un statut, ce statut de travail détaché qui a beaucoup fait débat ces dernières années et qui semble de plus en plus contesté. Ickiel Delaporte, on constate de plus en plus de vignerons qui refusent d'engager des travailleurs détachés.
Très honnêtement, je n'ai pas vu ça dans le Bordelais, pour ce qui me concerne. J'ai eu pas mal de témoignages après la parution du livre sur l'existence de ces travailleurs détachés que l'on voit circuler dans des camionnettes fermées d'un point à un autre, puisqu'ils sont, on les amène d'un point à un autre dans des camionnettes fermées, on peut absolument pas leur parler.
C'est un milieu très difficile à infiltrer.
C'est extrêmement compliqué d'avoir accès à eux. Ils ne parlent pas français, c'est souvent des Polonais, des Roumains. C'est extrêmement difficile parce que effectivement, eux-mêmes finalement rentrent dans ce système dans le sens où ça, ils sont assurés d'avoir du travail d'une année à l'autre. Donc il arrive, moi j'ai eu des échos de travailleurs détachés qui n'avaient pas du tout été payés pour le travail qu'ils avaient fait. Ils sont rentrés chez eux et ils sont revenus quand même parce qu'on leur a dit, vous voyez, il y a un certain nombre de choses, on ne peut pas vous payer, il y a eu le gel, c'est un petit peu compliqué, mais revenez l'année prochaine et on vous paiera. Mmh. Et donc, petit à petit, ils rentrent dans ce système-là jusqu'à peut-être s'en sortir, peut-être un ou deux arrivent à s'en sortir. Mais c'est, voilà, c'est quand même un système qui perdure sur plusieurs années.
On voit que ces pratiques de fidélisation concernent à la fois les vignerons d'un côté, mais aussi les prestataires de services. Catherine Laurent, alors quelle est la clé, selon vous, pour justement faire en sorte que les travailleurs demeurent dans une même exploitation et pour créer une véritable relation de travail entre employeurs et salariés?
D'abord, je pense qu'il ne faut pas se focaliser que sur le travail détaché, parce qu'il y a beaucoup de prestataires de services qui sont des prestataires nationaux. Et il y a dans les prestataires de services nationaux des abus aussi. Il n'y a pas que les prestataires internationaux qui sont source d'abus. De ce point de vue-là, enfin le livre d'Antoine Albertini, par exemple, sur les invisibles encore, c'est très, 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 très étonnant. La deuxième chose, c'est que, en effet, il y a beaucoup d'exploitations agricoles qui ont disparu ces dernières années, et donc la part relative du salariat a augmenté. Et la part relative des personnes qui travaillent dans les exploitations mais sont employées par des prestataires, c'est-à-dire que l'exploitation paye un service, elle a perdu le contact direct, a beaucoup augmenté. Eh bien, j'aurais tendance à dire qu'il faut renouer le lien entre l'exploitant et les personnes qui travaillent sur l'exploitation. Mais ça se fait, parce qu'il y a tout un tas d'exploitants, comme celui qu'on vient d'entendre, qui traitent tout à fait normalement leurs salariés et qui ont développé des stratégies, en effet, de fidélisation de leurs salariés, et ça se passe bien. Il y a beaucoup d'initiatives individuelles, simplement, c'est très fragmenté. Il y a aussi des initiatives collectives.
À l'inverse, on observe aussi des pratiques de faux détachement des prestataires de services qui vont créer une société en Bulgarie et pratiquer un détachement qui ne devrait pas en être un, Ickiel Delaporte.
Probablement, moi, ce que je vois ce que j'ai vu sur le Bordelais, en tout cas, c'est qu'il y a effectivement des sociétés écrans et que pour la mutualité sociale agricole, il est extrêmement difficile de mettre la main sur ces formes d'illégalité parce que ils ont des boîtes postales. Et puis finalement, ils peuvent partir d'un jour à l'autre à l'extérieur de la région pour ne pas se faire attraper par la mutualité sociale agricole du Bordelais. Donc évidemment, ils sont très flexibles même et ils ont une capacité aussi à maquiller leurs entreprises pour pouvoir renaître un petit peu plus loin ailleurs quelques mois après. Donc c'est ça aussi qui est très compliqué du point de vue de ceux qui pourraient réguler d'une certaine manière ou punir ces abus. C'est qu'il est difficile de mettre la main dessus, en fait.
La commissaire européenne au travail, Marianne Thyssen, avait proposé de réformer la directive sur le travail détaché en mars 2016. On va en reparler dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
since I got some sleep.
Like Wine de Balthazar sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre déambulation dans les vignes en compagnie de la journaliste Ixchel Delaporte et de l'économiste Catherine Laurent. Alors ce qu'il faut peut-être souligner maintenant, Catherine Laurent, c'est que la part des travailleurs saisonniers dans l'agriculture a augmenté à mesure aussi que la part du travail familial reculait. C'est important de noter ce recul du travail familial dans les exploitations agricoles et viticoles.
Bah, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'une partie des exploitations ont disparu, hein, parce qu'il y a une concentration avec des exploitations de taille de plus en plus grande. Corrélativement, il y a toujours, bon, il y a eu la mécanisation qui a permis d'éviter d'employer du monde, notamment la mécanisation de la vendange, mais il y a quand même dans plusieurs zones, la Champagne, le Bordelais, enfin, il y a toujours des vendanges manuelles. Et puis, il y a en plus, toute l'année, comme je le disais, beaucoup de monde. Donc, en effet, la proportion relative de salariés a beaucoup augmenté. Mais je voudrais quand même vraiment insister sur le fait qu'il ne s'agit pas que de salariés étrangers. Les saisonniers sont principalement des saisonniers français, enfin qui habitent là, qui sont...
Et notamment des étudiants et de plus en plus de retraités ces dernières années.
C'est pas tellement des étudiants, ce sont des gens qui sont à la recherche d'un revenu et qui prennent tout ce qu'ils peuvent trouver. Des retraités qui sont à la recherche d'un revenu complémentaire parce que leur retraite s'en basse. Dans le livre d'Ixchel Delaporte, on voit bien le lien avec le couloir de la pauvreté. Donc, en fait, il y a vraiment un monde du travail saisonnier en agriculture qui peut s'articuler avec le travail saisonnier dans le tourisme, d'ailleurs, enfin, éventuellement, avec d'autres travaux au fil de l'année.
Et pour rebondir sur ce que vous dites, Catherine Laurent, le gouvernement a autorisé le maintien du RSA avec le cumul du travail saisonnier dans 3 départements cette année. L'objectif, c'est vraiment de favoriser le recrutement, et notamment le recrutement local, Ixchel Delaporte.
Oui, j'ai vu ça, effectivement, dans le Bordelais. Je ne suis pas sûre que cela incite réellement les personnes qui sont au chômage à cumuler avec des emplois saisonniers précaires. Le fait est que la plupart des locaux, puisqu'on les appelle comme ça là-bas, savent très bien aussi ce que ça occasionne comme problème d'être un travailleur saisonnier de la vigne. C'est-à-dire que c'est un travail qui est extrêmement dur physiquement. C'est un travail où on est exposé à des températures très très élevées, que ce soit du froid ou du chaud. C'est un métier où on est exposé aussi aux pesticides. C'est-à-dire que vraiment, il y a un cumul de choses extrêmement négatives pour les personnes qui rentrent dans ces métiers-là, qui
explique aussi ces difficultés de recrutement, oui, quoi qu'il arrive, au-delà de la question monétaire.
Et puis monétaire. Le salaire. Et puis le salaire, qui est quand même très très faible, qui est très très faible, et un manque de reconnaissance. Et aussi une question qui est liée à la mobilité. La plupart des gens qui habitent dans ces villages-là n'ont pas forcément de voiture. C'est pas étonnant que à Bordeaux, les gilets jaunes aient pris une place aussi importante. C'est parce que c'est des gens qui viennent de ces villages autour, et c'est des gens qui vraiment sont obligés de faire énormément d'efforts pour pouvoir, ne serait-ce que pouvoir avoir une voiture, ou même pouvoir acheter de l'essence, ou même passer son permis pour les plus jeunes. Donc c'est aussi cette configuration sociale dans laquelle on va puiser effectivement cette main-d'œuvre-là, mais cette main-d'œuvre-là, effectivement, au bout d'un moment, comme ça fait plusieurs siècles que ça dure dans le Bordelais, les gens ils sont pas fous. À un moment donné, ils préfèrent effectivement toucher le RSA plutôt que de se tuer à la tâche.
Vous dites plusieurs siècles, effectivement, c'est intéressant de regarder un petit peu l'historique de cette notion de travail saisonnier. Alors, la notion en elle-même a été inventée dans les années 60, mais évidemment, la question du travail journalier est extrêmement ancienne, Michel Delaporte.
Oui, bien sûr, dans le Bordelais. C'est à partir du XVIe siècle, quand on a décidé, les élites bordelaises ont décidé de faire de ce territoire le territoire le numéro un pour ce qui concerne la production du vin. On a fait en sorte que tous les petits paysans qui pouvaient avoir des parcelles qui avaient plusieurs types de cultures, hein, qui pouvaient se nourrir, faisaient eux-mêmes leur propre vin. On a racheté tout ça, effectivement. Cette concentration dont parlait Catherine Laurent tout à l'heure, elle a commencé dès cette époque-là. Et donc, on a forcé les petits paysans à devenir des journaliers. Donc, ce que font les ouvriers étrangers aujourd'hui, c'est-à-dire à se poster devant l'église à Pauillac ou devant la gare à Pauillac pour qu'on vienne les chercher pour éventuellement aller travailler une journée, c'est des choses qui se faisaient déjà au XVIe siècle avec des journaliers qui allaient de château en château pour voir s'ils n'allaient pas pouvoir trouver du travail. C'est très ancien.
Et dans ce recrutement, l'Office national d'immigration a joué un rôle important depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Dans le Bordelais, l'immigration des pays nord-africains a été extrêmement importante. J'ai des personnes qui m'ont raconté comment on a été chercher des personnes dans des villages entiers et ramener des villages entiers pour pouvoir faire les travaux de saisonniers.
Et ce sont des missions qui sont encore assurées par le successeur de cet Office national d'immigration, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, ou est-ce qu'on assiste, comme on le disait, avec cette importance croissante des agences d'intérim, à un recul du rôle de l'Agence nationale qui traite de ces questions?
Et je pense qu'il y a plusieurs réseaux. On va dire qu'il y a sans doute le réseau de l'Office de l'immigration qui fonctionne toujours, puisque j'ai eu cette enquête que j'ai faite sur le Cognac, c'était bien des Tunisiens qui venaient par l'Office. Mais je pense que maintenant, depuis une dizaine d'années, il y a l'effet de la crise de 2008 qui a poussé nombreux jeunes Italiens, Espagnols, Portugais à venir en camion avec des styles de vie assez différents, c'est-à-dire anti-système, et évidemment les seuls métiers où il n'y a pas forcément besoin de formation, c'est entre autres la question de la saisonnalité, à tout type de saisonnalité, on va dire, mais en particulier dans l'agriculture. Et donc ces jeunes-là, j'en ai rencontré énormément dans le Bordelais, et c'est des jeunes qui ne souhaitent pas forcément avoir un compte en banque ou ne pas être fichés, mais néanmoins sont surdiplômés pour le travail qu'ils font, et surtout sont très conscients de la manière dont on les traite, la très mauvaise manière dont ils sont traités dans les châteaux.
Une réaction, Catherine Laurent, à cette transformation du profil de cette immigration étrangère qui travaille dans les exploitations agricoles?
Alors, 2008, il y a ce que vient de décrire Michel Delaporte. 2008, c'est aussi l'entrée dans Schengen, des pays d'Europe de l'Est, et donc aussi une arrivée massive de personnes qui viennent de différents pays d'Europe de l'Est, avec des choses un peu étonnantes, c'est-à-dire par exemple une période où il y a des Polonais qui sont venus en France, alors qu'en Pologne allaient des Ukrainiens avec un système particulier, dit de la déclaration, pour travailler dans les exploitations agricoles. Donc on est comme ça dans un espèce de circuit tout à fait étonnant. Donc là, on a fait des enquêtes en Pologne récemment, on nous dit oh, les Polonais veulent plus aller travailler en France, c'est pas assez bien payé, ils préfèrent aller maintenant aux Pays-Bas ou en Allemagne. Les Ukrainiens, ils veulent plus trop venir en Pologne, enfin dans l'agriculture, ils vont dans d'autres secteurs. Donc on va chercher des gens au Népal.
Voilà. On parlait de salaire extrêmement bas, mais ce qu'il faut dire, c'est que du côté des viticulteurs, tout de même, les normes sont tout de même très nombreuses, très strictes, Yxchel Delaporte. Et puis, il ne faut pas oublier que la concurrence nationale, internationale sur le vin est de plus en plus forte.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que les normes, ce qu'on exige en termes de conditions d'accueil, c'est effectivement très contraignant pour certaines exploitations. Il faut effectivement distinguer, je pense, ceux qui s'en sortent haut la main, comme les grands crus, les grands châteaux, pour ce que je connais, qui représentent à peu près 20% dans le Bordelais. Mais il reste 80% d'exploitations. Et ceux-là sont ceux qui sont vraiment à la limite de bien vivre. C'est-à-dire que ce sont des agriculteurs, des viticulteurs qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts et qui n'ont pas d'autre choix que de faire appel à la prestation de services. Parce que sinon, ils mettent la clé sous la porte.
C'est aussi ce qui explique la multiplication des types de contrats de travail. Catherine Laurent, il y a une grande diversité, une grande ingéniosité peut-être justement pour trouver un peu le moyen de rémunérer et d'engager un certain nombre de travail de la façon la moins contraignante possible.
De la façon la moins contraignante et puis la moins onéreuse aussi, hein, puisque quand même les contrats vendanges, c'est le SMIC, il n'y a pas de prime de précarité, enfin c'est vraiment le minimum de la protection. Les contrats dits saisonniers également, hein, c'est quand même une protection minimale. Et le nombre de CDD, de CDI, de CDD normaux n'est pas très élevé, et de CDI est encore moins élevé. Donc il y a vraiment une espèce de paysage du salariat avec des salariés permanents qui sont généralement bien formés, bien payés, et puis toute une masse d'autres personnes dont les conditions de travail s'éloignent beaucoup de ce que nous a décrit la dame de Nuit-Saint-Georges. Enfin, si vraiment ça pouvait être partout pareil, ça serait formidable.
Donc un monde à deux vitesses, si on vous comprend bien, Catherine Laurent. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est face aux abus dont on a pu parler dans cette émission, comment les saisonniers peuvent se défendre, Yxchel Delaporte? Est-ce qu'il y a moyen, la possibilité pour eux de se syndicaliser? Quelles sont les difficultés auxquelles ils font face pour justement protester?
Oui, c'est très difficile. Je pense que là, c'est vraiment aussi une question liée à l'histoire du territoire, savoir s'il y avait des coopératives, s'il y a des syndicats qui se sont mis en place. Pour ce qui concerne le Bordelais, historiquement, c'est un territoire qui a fonctionné sur du paternalisme au XIXe siècle et donc qui a complètement anéanti toute possibilité de syndicalisme et d'organisation de grève. On n'a jamais vu une grève dans un château. Dans le Bordelais, on n'a jamais vu des manifestations, ça n'existe pas. Il n'y a pas de groupe syndiqué. Néanmoins, il y a quand même des syndicats. Moi, j'ai rencontré entre autres la CGT qui fait un travail de fourmi et qui est quand même là pour essayer de sauver quelques salariés qui ont entendu parler de la CGT, qui ont reçu une rupture conventionnelle, parce qu'il est extrêmement facile de se défaire de son salarié pour telle ou telle raison. Et qui essaye de se sauver un peu et de repartir de partir de cette exploitation avec au moins quelque chose, quoi.
Mais au-delà du Bordelais, historiquement, les emplois agricoles ont toujours été en retard en termes de progrès sociaux par rapport aux emplois industriels. C'est le monde. On en subit encore les conséquences.
Oui, je pense que c'est le monde agricole, c'est le monde rural français est quand même c'est fondé sur la famille, c'est fondé quand même sur des exploitations familiales, donc. je pense que là, le nombre de femmes d'agriculteurs qui n'ont pas été payées ou qui n'étaient pas déclarées et qui aujourd'hui ne touchent pas de retraite est phénoménal. On commence à s'en rendre compte un petit peu maintenant, on en parle un petit peu plus. Mais...
Catherine Laurent.
Je serais plus partagée sur... sur ce point. Je pense qu'en effet, en termes de rémunération du travail, il n'y a pas photo, il y a vraiment un problème dans l'agriculture et notamment pour les salariés. Maintenant, les années 60 ont été un moment aussi de grande effervescence intellectuelle dans le monde de l'agriculture et d'un projet pour lequel l'activité agricole était émancipatrice pour les exploitants agricoles, leurs familles, mais aussi elle devait être émancipatrice pour les salariés agricoles. Ce qui est très frappant, c'est que ça a duré cette trajectoire a duré pendant plusieurs dizaines d'années et depuis, je dirais, une quinzaine d'années, on a basculé. Et pour une partie des agriculteurs, ils défendent toujours cette vision d'une activité agricole émancipatrice, enfin, y compris dans certains syndicats d'exploitants agricoles. Pour d'autres, on est passé dans une vision ultra-libérale très violente où les travailleurs doivent être exploités et doivent être là au moment où on veut qu'ils soient là, point barre.
Et alors, est-ce que la lutte contre les abus peut passer par une réforme du travail détaché? C'est une question qui a été largement discutée lors de la campagne pour les élections européennes cette année. Quelles ont été les propositions de réforme qui avaient été formulées par la Commission européenne dès 2016, Michel Delaporte, et qui avaient suscité un certain nombre de mécontentements? Alors c'était parce qu'on sait que la concurrence déloyale est dénoncée par la France, l'Allemagne ou encore la Belgique, la concurrence déloyale que représente ce statut. Mais il y a un certain nombre de pays en Europe de l'Est, évidemment, qui étaient très opposés, justement, à cette réforme formulée par la commissaire.
Là, je vous avoue que je ne peux pas vous répondre sur ce sujet-là. J'ai pas de données sur la question du travail détaché, comme je vous expliquais. J'ai pas forcément enquêté là-dessus, donc je peux pas vous répondre.
Alors les choses ont en tout cas évolué puisque les ministres du Travail de l'Union européenne ont conclu un accord le 23 octobre 2017.
Madame la ministre du Travail, le président Macron, votre gouvernement et vous-même vous gargarisez d'avoir obtenu un accord majeur pour les travailleurs et les travailleuses détachées. L'Europe sociale serait en marche. Comme nous en sommes désormais habitués, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Votre projet a pu être conclu parce que vous avez accepté de sacrifier les travailleurs et travailleuses du secteur routier alors qu'il s'agit d'un secteur les plus fragilisés. C'est inacceptable.
Madame la députée, oui, je l'affirme, c'est un succès majeur pour l'Europe sociale que nous désirons. Le président de la République s'y était engagé et nous avons hier obtenu à Luxembourg une victoire majeure. Le premier sujet, c'est à travail égal, salaire égal. C'est une avancée considérable par rapport à 1996. Deuxième sujet majeur, le sujet du transport. Vous l'avez évoqué. Tout le monde peut comprendre que contrôler le travail d'un chauffeur dans un camion, c'est pas la même chose que d'être sur un chantier. Il y a des modalités spécifiques qui seront négociées, mais le principe est affirmé. Oui, le transport fait partie de la directive détachée.
Voilà, on vient d'entendre dans l'ordre la députée La France Insoumise, Danielle Obono, suivie de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Qu'est-ce que vous inspire cette passe d'armes, Michel Delaporte? Le principe à travail égal, rémunération égale, constitue une vraie avancée?
Je peux pas vraiment vous répondre. Pour moi, là, c'est vraiment des questions qui sont trop
Catherine Laurent, précises. Peut-être.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un peu de, on parle de poudre de perlimpinpin, il y a un tour de passe-passe, parce que travail égal, salaire égal, ça veut simplement dire que les travailleurs détachés doivent être payés au même salaire horaire que les travailleurs locaux. C'est pas nouveau. La seule chose, c'est que c'est pas appliqué. Voilà. Donc, en fait, en soi, c'est pas nouveau. Donc, ce qui a vraiment été négocié, ce qui a vraiment été nouveau, c'est qu'on a dit, il y aura plus de contrôle. Voilà. Il y aurait plus de contrôle en France. Mais d'abord, le salaire minimal n'est pas le même dans tous les pays d'Europe. Donc, ça change pas la question de la concurrence. Et puis, c'est surtout, la question de fond, c'est surtout quelles sont les conditions de travail qu'on crée dans ce pays pour que des salariés occasionnels et saisonniers puissent travailler dignement. Et ça, on sait faire, on sait peut-être pas faire, mais il y a 1000 rapports administrativo-politiques qui disent exactement ce qu'il faut faire. Il faut créer des logements dans les collectivités territoriales, il faut organiser du transport, il faut faire attention aux conditions de santé et sécurité au travail.
Et là-dessus, le chantier est énorme, il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Il n'y a pas tellement de progrès à faire pour le conceptualiser ou savoir ce qu'il y a à faire. Il faut mettre les choses en œuvre. Donc il y a tout un tas d'initiatives fragmentées, mais c'est ça le fond du problème.
Et le fait que dans cet accord qui a été conclu entre les ministres du Travail de l'Union européenne le 23 octobre 2017, donc le fait que les cotisations sociales du travailleur détaché demeurent celles du pays d'origine, et le fait aussi que la durée du travail détaché ne doit pas excéder 12 mois, est-ce que pour vous ce sont des mesures, Catherine Laurent, susceptibles de répondre à cette problématique ?
Mais c'est pas nouveau, enfin je veux dire, on a dit c'est nouveau, mais c'était déjà comme ça. Donc en fait, on n'a rien changé. Hein. La seule chose qui a été mise en avant, ça a été de dire on va faire des contrôles. Et en effet, il y a eu un développement des contrôles. Mais en soi, c'est pas ça change pas grand-chose. Et là où il y a concurrence déloyale au niveau français, enfin là où il peut y avoir des problèmes de concurrence, c'est que on sait que des travailleurs détachés sont proposés, entre guillemets, à des agriculteurs à 3 euros de l'heure. Parce que les prestataires qui les emploient vont fournir deux fois plus d'heures de travail que ce qui est officiellement déclaré. Donc toute la question, c'est de la déclaration et du contrôle du droit du travail.
Mmh. Alors effectivement, la question du respect de la nouvelle directive qui a été adoptée en 2018 se pose. Et pour cela, il faut de la coopération entre les pays. Il y a un réseau d'information du marché intérieur qui existe. C'est un réseau électronique d'échange d'informations entre pays européens. Et pour l'instant, ce que des journalistes de Libération ont pu observer, c'est que les taux de réponse des pays, donc qui devaient apporter un certain nombre d'informations, étaient très limités.
C'est extrêmement compliqué d'avoir des données sur les travailleurs détachés. Et on l'a constaté avec des collègues étrangers. Enfin, c'est très compliqué.
Toute la difficulté, effectivement, avec Charles Delaporte, c'est de réussir à maintenir un avantage pour les entreprises tout en améliorant les conditions de travail des travailleurs détachés.
Oui, c'est très compliqué parce que c'est vrai que pour ce qui concerne ce que moi j'ai travaillé dans le Bordelais, il y a un décalage entre toutes ces grandes déclarations qu'on a entendues politiques et le local. Je prends l'exemple de Pauillac. Le maire de Pauillac refuse absolument construire, par exemple, des logements. Et c'est le cas de beaucoup de maires, parce que la plupart des maires ne veulent pas avoir à gérer les questions de logements de saisonniers. Dès qu'il y a une possibilité de création d'une maison de saisonniers ou de construire, je ne sais pas, quelques lieu même en préfabriqué, il y a une levée de bouclier de la part des commerçants ou des habitants, parce que tout de suite, saisonnier égale voleur de poules, saisonnier égale tzigane égale voleur. Donc il y a aussi une espèce de réaction extrêmement négative envers ces travailleurs-là. Je vous parlais des Italiens, des Portugais, c'est des gens qui ont une autre manière de vivre, qui vivent en camion. On ne veut même pas les voir dans leur camion, donc ils se retrouvent au milieu des bois, dans des déchetteries, ils cherchent de l'eau là où ils peuvent. Je veux dire, c'est aussi ça la réalité sur le terrain, c'est on n'en veut pas, on veut bien qu'ils fassent les travaux, mais s'ils pouvaient rester invisibles le reste du temps, ça nous arrangerait.
Ce sont les a priori sur les travailleurs qui expliquent la difficulté à mettre en œuvre, par exemple, et à créer les logements dont vous parliez, Catherine Laurent.
Je suis pas sûre que ce soit des a priori, enfin, ça peut dépendre de conditions locales, mais je pense qu'il y a surtout pas de programme d'ensemble cohérent et coordonné. On est dans le marché va tout réguler. Et en fait, le marché ne régule pas. Voilà.
Mais est-ce que cette absence de volonté politique, elle répond pas, comme le disait Michel Delaporte, à des représentations sur ces travailleurs?
Je suis pas certaine, parce qu'en fait, on parle beaucoup des travailleurs détachés, mais j'insiste, il y a 600 000 travailleurs saisonniers en France qui sont pas des travailleurs détachés, plus 200 000 personnes qui sont employées par des prestataires nationaux qui sont pas des travailleurs détachés, et il y a 67 000 travailleurs détachés en agriculture en tout, donc c'est vraiment une fraction des gens. Et en fait, la question des conditions de travail des travailleurs non permanents, elle est très générale et elle concerne beaucoup les travailleurs résidents en France aussi.
Alors on arrive presque au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être sur l'évolution du statut de saisonnier dans le monde du vin, plus largement dans le monde agricole, et peut-être aussi sur le fait que les études sur le sujet sont assez rares. Catherine Laurent, comment est-ce qu'on l'explique ?
Les études sont rares sur les non-permanents en général, et le monde du vin est un endroit où il y a beaucoup de travailleurs non-permanents. On est incapable de vous dire aujourd'hui combien il y a de personnes qui travaillent dans l'agriculture européenne. C'est pas qu'en France, et encore en France, on a réussi à calculer à peu près, mais dans tout un tas de pays, on ne sait pas combien il y a de non-permanents. C'est un espèce de gros point aveugle de la statistique. Parce que il y a beaucoup de gens qui passent maintenant par les prestataires de services et que ces gens, dans les statistiques européennes, ne sont pas répertoriés dans les statistiques nationales. C'est un nouveau système. Donc ça échappe au domaine statistique en particulier.
Ça échappe au domaine statistique, mais il y a aussi peu de recherches, d'études plus largement sur les conditions de travail, de recherches peut-être plus sociologiques, Ixchel Delaporte.
Oui. Moi, quand j'ai fait cette enquête, je pensais trouver de nombreuses enquêtes sur ce sujet-là et sur la question viticole. Il y a extrêmement peu de choses. J'étais étonnée aussi de voir que les écoles de nos tourismes œnologiques étaient très liées aussi au château et donc à ceux qui font tourner le business et que donc, du coup, peut-être que c'est assez difficile aussi au sein des universités bordelaises de travailler de manière complètement indépendante sur ces sujets-là.
Est-ce que l'amélioration de ce statut de saisonnier pourrait passer aussi par un développement de la recherche dans ce domaine, Catherine?
Alors, ça pourrait passer par un développement de la recherche, il n'y a pas de doute. Je pense qu'un des blocages aussi, c'est que de qualifier précisément les personnes qui travaillent dans les exploitations agricoles, ça voudrait dire aussi faire des contrôles et mettre en œuvre, par exemple, toute la directive européenne en matière de santé et sécurité au travail. Or, on sait que c'est pas appliqué. Il y a bien sûr des associations comme Phytovictimes ou d'autres qui travaillent là-dessus, mais il y a une dégradation du droit du travail qui de plus en plus devient structurelle dans la façon dont se construisent les profits d'une certaine catégorie d'exploitation.
Dégradation du droit du travail qui concerne évidemment bien d'autres domaines. On aura l'occasion d'en reparler. Un grand merci à toutes les deux. Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Un Pexit, c'est ce qui menace l'union postale universelle si les États-Unis quittaient l'organisation comme ils le menacent. Congrès extraordinaire aujourd'hui et selon elle, les conséquences seraient catastrophiques.
En tout cas, Pexit, c'est bien la contraction de Postal Exit et c'est l'ultimatum des États-Unis s'ils n'obtiennent pas, comme ils l'exigent, une révision des tarifs interpostaux internationaux, sans quoi donc ils sortiraient de l'UPU le 17 octobre. C'est ce qui est en discussion à Genève pendant deux jours et en ce moment, deuxième jour, un taux de défraiement interpostal que paye chacun des pays au pays d'arrivée des plis postaux. Selon Washington, la Chine, qui est un hub du commerce en ligne, serait favorisée à son détriment et l'ensemble des charges coûterait aux États-Unis entre 350 et 500 millions de dollars par an. Une distorsion pour le conseiller économique Peter Navarro dans le Financial Times la semaine dernière. Lui qui dénonçait hier à Genève les petits colis, je le cite, chinois, lourdement subventionnés par les États-Unis, qui sont quand même 20% du trafic mondial. Alors de quoi s'agit-il? De nouvelles pressions sur une organisation de l'ONU peut-être? D'une prolongation de la guerre commerciale? Pas seulement, explique Léonard Laborie. Il est historien chargé de recherche CNRS et chercheur au CIRIS de la Sorbonne.
Le problème avec les tarifs, c'est qu'il y a une forme de péréquation mondiale depuis 1969 et qui vise à aider les pays les moins développés à s'insérer dans les flux postaux internationaux. Donc ces pays, quand ils reçoivent du courrier, le pays émetteur leur donne de l'argent, et inversement, quand ils émettent du courrier, ils ont moins à donner aux pays destinataires que les autres. Le développement du e-commerce a vraiment mis de la pression sur ce sujet ancien des frais terminaux, sujet discuté depuis longue date, mais qui forcément évolue avec le contexte, en l'occurrence technique et commercial. Les États-Unis ne sont pas les seuls concernés. La Poste française reçoit beaucoup de ces petits paquets. La Poste suisse et les grands pays reçoivent tous des flux importants de petits paquets en provenance de Chine. La crainte d'une désorganisation est, je crois, un petit peu excessive. Ce qui se passerait en cas de sortie des États-Unis, c'est la signature, comme cela se faisait avant la naissance en 1874 de l'Union postale universelle, de conventions bilatérales entre les États et entre les offices postaux. Les États-Unis ont un rôle particulier dans cet équilibre global, puisque, en effet, ils sont un grand pays d'émissions, de destinations, de transit. C'est particulièrement important pour les pays d'Amérique centrale et latine. Mais enfin, ça n'est pas fait et j'aurais plutôt tendance à penser qu'un consensus pourrait quand même émerger dans les jours qui viennent.
Les États-Unis ont déjà perdu un premier vote à Genève hier, second vote aujourd'hui, Xavier ?
Oui, c'est ça. En tout cas, 54% des États s'étaient prononcés contre l'autorisation aux États-Unis d'appliquer leur propre taux. Trois solutions temporaires restent possibles jusqu'à renégociation des tarifs en 2021, avec une solution intermédiaire éventuellement. De son côté, la Chine à l'ONU a dénoncé les propos de Donald Trump justement sur les abus commerciaux chinois comme des affirmations fausses.
On passe au bref. L'Arabie Saoudite vient de rétablir sa production pétrolière au niveau d'avant les attaques. Un rétablissement éclair.
Oui, 10 jours après les attaques, les deux sites Abqaiq et Qurais fonctionnent. La production nationale atteint désormais 11,3 millions de barils. Un retour à la normale plus rapide que prévu, alors qu'une source d'Aramco avait prévenu il y a quelques jours que son rétablissement prendrait des semaines plutôt que des jours. Et puis 11,3 millions de barils par jour, c'est plus que les niveaux d'août à 9,8 millions.
Les suites du Dieselgate maintenant. Deux marques allemandes sont devant la justice.
Oui, coïncidence. La condamnation hier à 870 millions d'euros d'amende de Daimler pour avoir mis sur le marché en 2008 des voitures aux émissions dépassant la norme. Négligence, dit le parquet de Stuttgart, alors que celui de Francfort vient de mettre en examen deux anciens dirigeants de Volkswagen sur des soupçons, je cite, de manipulation de marché pour éviter de déprécier le titre en bourse qui avait perdu 37% lors du scandale des moteurs aux émissions truquées en 2015.
Et pour finir, la confirmation des difficultés chez Michelin, le constructeur de pneus souffre de la concurrence.
Oui, le fabricant qui avait déjà identifié, on en parlait, 4 usines en France ayant d'importants problèmes de compétitivité vient de confirmer au syndicat Sud les inquiétudes concernant l'avenir de l'usine de la Roche-sur-Yon en Vendée et il annonce aussi la fermeture d'une usine en Allemagne, 850 emplois supprimés, 650 potentiellement en France. Dans les deux cas, Michelin pointe la baisse de la demande en pneumatique et la concurrence asiatique, pneus poids lourds en Vendée et pneus 16 pouces en Allemagne.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast. C'était Je sais pas danser de la chanteuse et musicienne Pomme qui sortira son deuxième album le 1er novembre prochain. Un grand merci Catherine Laurent et Michel Delaporte d'être venues dans nos studios aujourd'hui. Un grand merci également à notre réalisateur Philippe Baudouin. Demain, nous partons à la découverte des exploitations viticoles qui, de la Californie à la Géorgie, attirent chaque année un peu plus de touristes. En attendant, n'hésitez pas à écouter nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.